Vous écoutez
RMC.
À vous de nous dire.
À vous de nous dire. La rigueur, le mot est lâché après la publication des chiffres du déficit. On vous les donnait dès le journal de 7h30 hier. 5,5% du PIB pour l'année 2023. Un trou de 154 milliards. C'est simple, il manque 154 milliards d'euros. Un trou qu'il faut désormais boucher. Gabriel Attal a donc lâché le mot qui fâche. C'était hier à l'Assemblée.
Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail. Parce que la réalité, c'est que si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de problèmes avec nos finances publiques parce que nous aurions des recettes fiscales et sociales plus importantes. C'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances. C'est ça la ligne de mon gouvernement, c'est ce que nous avons poursuivre et j'espère que nous pourrons nous rejoindre sur un certain nombre de points.
La rigueur. Alors, je vais vous donner la parole au 32-16. Si vous étiez ministre de l'économie, où iriez-vous chercher ces milliards d'euros qui manquent? Mais d'abord, Manu, ce mot rigueur, ça a un sens en économie.
Oui, absolument. C'est une politique qui vise à réduire les déficits publics par deux biais. Soit on augmente massivement les recettes fiscales, ça veut dire augmenter l'impôt sur le revenu, augmenter la TVA par exemple, ou alors vous cherchez à diminuer les dépenses et là vous tapez dans les dépenses sociales. Donc c'est baisse des dépenses publiques ou bien hausse de la fiscalité, parfois
les deux.
Parfois les deux, évidemment. Le meilleur exemple en France, enfin le plus célèbre, c'est ce qui se passe en 1983.
Le fameux tournant de la rigueur.
François Mitterrand mène une politique de gauche, donc il augmente le SMIC, il fait une relance de la demande, il creuse les déficits publics. Et l'Europe, à l'époque, c'est pas possible. Je vous rappelle qu'il n'y a pas l'euro, le franc est menacé et il faut absolument réduire les déficits publics. Et là, on change radicalement de politique, effectivement, avec une politique fiscale beaucoup plus dure, des réductions de dépenses. Ça, on l'a connu en France. On en est très loin encore aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que rien que les chiffres 2023 hier, les dépenses de fonctionnement de l'État, donc le train de vie, c'est plus 6%, hausse des dépenses
plus 6%
de retraite.
Depuis quand ?
60 000 par rapport à l'année précédente.
C'est-à-dire qu'en fait, au même moment où ils nous disent il n'y a plus de sous, en fait, ils viennent de faire plus 6% de fonctionnement, simplement.
Alors,
on n'est pas dans l'investissement.
Alors, non, pas du tout. Et dans les baisses de dépenses, il y a souvent, par exemple, les réductions d'effectifs de fonctionnaires. Mmh. On en a quand même embauché 60 000 l'année dernière. C'est du jamais vu depuis 2013.
Oui, donc mais dans on un moment est, où effectivement on manque
en est
de
très,
profs,
très loin
on manque de médecins, on manque quand même beaucoup d'agents.
Mais sur l'échelle de la douleur, si vous voulez.
Oui, on n'est pas en 83. Quoi.
On est plutôt à 1 ou 2, alors qu'en 83, on était à 7 ou 8 quand même.
Alors, on est avec Safo et Eric qui sont déjà avec nous au 32-16. Bonjour Eric.
Bonjour.
Eric, vous nous appelez du Tarn, vous êtes chef de chantier en électricité. Si vous étiez ministre de l'économie, vous feriez quoi là ?
Beaucoup d'économies sur les fonctionnaires déjà.
D'accord.
En exigeant qu'ils fassent leur travail et qu'ils travaillent les heures pour lesquelles ils sont payés.
Alors, il y a parmi les pistes déjà l'idée qu'ils fassent les 35 heures. Il y a un certain nombre, notamment dans les collectivités territoriales parfois, de fonctionnaires de l'État ou des collectivités qui ne sont pas aux 35 heures au sens où ils font moins que 35 heures. Et donc, l'idée, l'une des pistes qui a été d'ailleurs évoquée déjà par le gouvernement, c'est de les obliger à travailler 35 heures pour avoir moins d'embauches de fonctionnaires à faire. Enfin, moi, je veux bien qu'on dise ça, mais Eric, les profs, c'est des fonctionnaires et on manque de profs. Je sais pas si vous avez des enfants, mais vous avez sans doute envie qu'il y ait des profs devant eux, non ?
Oui, je veux bien, mais justement, on exigeait qu'ils fassent leur travail, qu'ils soient présents et qu'ils ne soient pas absents parce qu'ils ont un petit mal de tête ou autre chose. Peut-être qu'on ne ferait pas ces dépenses-là.
On a l'impression aussi que l'une des pistes, ça va être d'aider moins, c'est-à-dire notamment les chômeurs, réduire encore sans doute les allocations, réduire les allocations pour les seniors. Est-ce que ces pistes-là, vous, Eric, vous les valideriez à Bercy ?
Non, parce que ça sera toujours tapé sur le petit et sur celui qui a rien. Celui qui est au chômage à 55 ou 60 ans, c'est pas pour le plaisir.
C'est ça, c'est pas pour le plaisir, c'est dur. Nicolas.
Non, je voulais juste faire remarquer à Eric que les statistiques nous disent que les profs ne sont pas plus absents que les salariés du secteur privé. Tout simplement pas plus absents. C'est pas vrai ce qu'il vient de dire, que les profs se mettaient en arrêt maladie dès qu'ils avaient mal à la tête.
Ils sont pas plus absents et simplement ils sont moins nombreux. Ils sont déjà pas suffisamment nombreux en fait.
Alors ils sont pas plus absents pour des raisons de maladie. En revanche, si on rajoute les formations, qui est effectivement à ce moment-là, le taux d'absence des profs dépasse légèrement le taux des salariés du privé. Mais pour les arrêts maladie, puisque c'est ça qu'évoquait Eric. Ouais. C'est tout simplement faux.
C'est faux ça, Eric.
C'est faux. On doit pas être dans la même réalité. Les chiffres, je sais pas comment ils les calculent, mais faut voir ce qui se passe vraiment. Et
dans après, la réalité, après ils sont à l'os. Hein, ils sont à l'os en termes de nombre de fonctionnaires. Manu.
Le problème, c'est que tous les fonctionnaires qui sont au contact direct des usagers vivent dans une situation de paupérisation terrible et que les gaspillages sont considérables entre ce fonctionnaire de terrain et le ministre. C'est là où il y a des suradministrations, des services qui sont
des doublons,
des triplettes, etc. En France, sur un dossier, il faut qu'il y ait 5-6 tampons, 7 tampons de services différents. En fait, c'est pas qu'il y a des fonctionnaires qui font rien, c'est qu'il y en a plein qui font la même chose.
Ça fait des années qu'on le dit.
Oui, mais c'est bien pour ça que si ça ne change pas, ça change.
Et puis il y a aussi la question du millefeuille, parce que entre le ministre et le fonctionnaire, il y a aussi tous les étages, la métropole, le département, la région, etc.
On a décentralisé, mais sans enlever les étages intermédiaires.
Il y a peut-être du gras là, oui.
On le voit bien régulièrement. RMC s'engage avec vous quand on a un dossier qui implique la métropole, la ville, le ministère. En fait, personne ne s'accorde.
Et c'est moins efficace.
Exactement. Il n'y a pas de coordination entre les services. Et en fait, ils travaillent, même pour nous, quand on leur demande des choses et de s'activer, ils travaillent. Il y a trois services qui travaillent pour RMC s'engage avec vous et qui, au final, parviennent à la même réponse. Ça n'a pas de sens.
Safo est aussi avec nous. Bonjour, Safo.
Oui, bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Alors vous nous appelez de Poitiers, vous travaillez dans le recrutement. Oui. Comment vous voyez ça? Vous seriez ministre de l'économie, vous feriez quoi là?
Donc déjà, qu'ils réduisent leur salaire. Et surtout ce départ. Parce que je suis désolée, vous quittez votre entreprise, d'accord, vous avez rendu un service à la nation, vous êtes engagé. Mais je suis désolée, partir avec un gros chèque de 15 000 euros pendant 3 mois après votre départ, c'est pas normal.
Vous pensez à qui ça faut? À ceux qui travaillent dans les ministères?
Oui, exactement, tout à fait.
Parce que ça, moi, j'avais pas cette info qui partait avec 15 000 euros, j'ai jamais vu ça.
Je pense que les ministres ont effectivement plusieurs mois gardent leur traitement, ce qui est une façon pour eux de rebondir, mais je crois pas que les membres des cabinets ministériels partent avec rien et pas le droit de s'inscrire au chômage, et puis les fonctionnaires, ils restent.
Pour le coup, ça faut là-dessus, je crois effectivement, il faut quand même être précis, d'abord les ministres, je crois qu'ils ont pas le chômage derrière, et par ailleurs, ils peuvent sauter à tout moment.
Ils peuvent sauter à tout moment, mais ils se sont engagés à servir la nation, je suis désolée. Donc, ils s'engagent, c'est pas pour l'argent, c'est parce qu'ils veulent rendre...
Je comprends bien, Safo, mais vous feriez le boulot en vous disant qu'à tout moment, vous pouvez sauter et que derrière, vous n'aurez pas de chômage?
Mais on est tous irremplaçables, Apolline, dans le travail, que ce soit un ministre ou que ce soit un salarié lambda comme moi.
Mais Safo, ça, je suis parfaitement d'accord. Et par ailleurs, il y a aussi une autre question qui est la question de l'augmentation qui vient d'être votée par les sénateurs et les députés. En revanche, c'est vrai que sur la question, je trouve que, je veux dire, dans un pays où il y a quand même un certain nombre d'aides d'organisation, c'est vrai que là, pour le coup, les ministres, quand ils sautent. Mais sur les augmentations, c'est vrai que le timing est quand même assez sidérant quand on voit les augmentations que se sont octroyées les sénateurs. Et les députés, alors c'est pas une augmentation de salaire à proprement parler, c'est une augmentation de l'enveloppe de frais. Enfin, ça revient à peu près au même quand même. Amélie.
Une précision sur les indemnités de départ des ministres. Quand ils partent, effectivement, ils touchent 3 fois leur traitement mensuel. Donc là, par exemple...
Dans le cas
d'Elisabeth Borne en janvier, elle est partie avec 3 fois quasiment 15 000 euros, soit un peu moins de 45 000 euros.
Voilà, donc ils partent avec ça. Est-ce qu'elle touche le chômage derrière?
A priori, non.
Non, a priori, non. Donc c'est effectivement de ce point de vue-là. Donc ça, faut première chose, vous réduiriez et vous estimez que c'est aussi à eux de montrer l'exemple. Cette question de les augmentations des députés et des sénateurs, elle revient régulièrement. Et c'est vrai que...
C'est quand même fou. Tous nos auditeurs, ils sont pas fous. Ils savent très bien que c'est pas ça qui réduira les déficits publics. Ils sont hyper attachés à cette idée d'effort partagé. Et si c'est pas un effort partagé, les Français n'adhéreront pas.
Merci Safo et Eric d'être venus poser le débat avec nous ce matin. On vous attend au 32-16, tous ministres de l'économie.